Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un petit mot dièse en 6 caractères qui a été lancé il y a 5 mois après l'affaire Weinstein et qui a causé une vague de témoignages inédites. MeToo ou Balance ton porc pour sa version française a permis de libérer la parole d'une partie des femmes et de commencer à donner une idée de l'ampleur du problème de harcèlement et d'agression sexuelle dont elles sont victimes, que ce soit au travail ou dans l'espace public, c'est-à-dire à peu près partout et tout le temps, dans tous les milieux. Des têtes sont tombées, notamment dans le show business en Amérique du Nord, mais au-delà de quelques cas emblématiques, est-ce que MeToo a réellement changé les choses pour les femmes? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Marilyn Baldeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'association AVFT, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et Françoise Pic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante-chercheuse à l'université Paris-Dauphine et spécialiste de l'histoire du féminisme. Marilyn Baldeck, il y a 5 mois, lorsque nous avions reçu une première fois une représentante de votre association, elle était un petit peu dubitative sur la libération de la parole, sur la continuation du phénomène MeToo dans le temps. Est-ce qu'avec le recul, vous êtes surprise, vous, par l'ampleur qu'ont compris les choses?
Plutôt, oui. Plutôt surprise. Je pense que personne ne pouvait anticiper ce mouvement dans lequel, en fait, les femmes se sont senties appartenir à un groupe, en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'apport majeur, en fait, du mouvement MeToo. C'est que les femmes se sont reconnues entre elles comme partageant en fait un sort et un destin commun et je crois que la plupart des femmes ont reconnu dans ce hashtag MeToo quelque chose qui touchait vraiment la vérité de leur existence, de leur vie quotidienne et que ce qui s'est passé aussi c'est un élan de solidarité entre femmes que les féministes appellent de plus en plus souvent la sororité. Et c'est forte de cette solidarité qu'elles se sont mises à parler plus nombreuses qu'avant.
Françoise Pic, vous êtes surprise. Est-ce que vous avez le souvenir d'événements avec un tel écho?
Alors, avec un écho comme maintenant, certainement pas, parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là Internet et les réseaux sociaux qui surmultiplient les choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ma longue vie et dans ce que j'ai appris de l'histoire précédemment, il y a des moments comme ça où tout d'un coup quelque chose se passe, où il y a comme un événement qui coalise les choses, une question dans laquelle les femmes se reconnaissent et qui crée ce que dit Marilyn, ce sentiment de sororité et d'avoir en commun quelque chose et d'avoir un destin commun et un projet de changer les choses en commun. Et donc voilà, ça c'est arrivé là, mais je l'ai connu dans d'autres occasions, sur d'autres questions précédemment.
Alors, parmi les conséquences concrètes, parce que c'est ça qu'on va essayer de voir pendant cette émission, on disait souvent, les femmes ont du mal à franchir le pas, d'aller porter plainte, d'aller voir la police pour signaler une agression ou du harcèlement sexuel. Est-ce que le nombre de plaintes judiciaires déposées a augmenté et dans quelle proportion, Marilyn Baldeck?
Alors, selon les chiffres de la police et de la gendarmerie, au moins jusqu'au mois de décembre, les plaintes ont augmenté de 30% sur des agissements de violence à caractère sexuel. Et ça, la surfréquentation en fait des commissariats et gendarmeries par les policiers, nous on l'a directement aussi ressenti à l'association, puisque dans la même période, on recevait entre 5 et 10 demandes de soutien juridique par jour à l'association, là où les semaines précédentes, on en avait 3 par semaine. Donc très très clairement, les femmes n'ont pas fait que tweeter leurs mauvaises expériences, elles ont aussi cherché à trouver des solutions, et il se trouve qu'elles ont reçu de lourdes injonctions à aller porter plainte, y compris les injonctions gouvernementales. On leur a dit qu'il valait mieux porter plainte que de raconter leurs histoires sur les réseaux sociaux. Et manifestement, cette injonction a été suivie d'effet.
Alors, est-ce que c'est nouveau que ce pas de la plainte soit plus souvent franchi, Françoise Pic?
Alors, sur ces questions-là, nous, si vous voulez, il y a quelques dizaines d'années, on a connu la question par rapport au viol. Hein, on a eu la période du viol, la période de la campagne contre le viol, hein, dans les années 75, 76 et jusqu'à 80, dans lequel les choses se sont posées. Bon, alors, c'était pas des centaines de milliers, hein, c'était des cas quand même moins nombreux, mais quand même où il y avait toute la question de savoir s'il fallait porter plainte et où on sait que bon effectivement les plaintes ont beaucoup augmenté, que les choses ont changé puisque à ce moment-là il a été reconnu que le viol était un crime donc qui devait passer en cour d'assises. Enfin il y a eu tout ce phénomène là qui a joué de cette façon là.
Alors est-ce que c'est je pose la question de manière un peu provocante, est-ce que c'est bien ou pas qu'il y ait plus de plaintes, parce que s'il y a plus de plaintes il y a plus d'affaires qui sont traitées, mais ça veut aussi dire que malgré tout ce qui se dit, eh bien ça continue.
Alors Marine Maldec, on verra dans quelques mois si les femmes ont eu raison de porter plainte en plus grand nombre que d'habitude. On verra si il n'y a pas plus 30% de classement sans suite dans les prochains mois. Donc ça va dépendre aussi du sursaut de l'État et notamment du sursaut de l'institution judiciaire et policière, à savoir enquêter sur ces dossiers, aller rechercher le faisceau d'indices concordants. Ça dépendra aussi de la politique pénale des parquets. Est-ce que ça va devenir une priorité de politique pénale de renvoyer ces affaires-là devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises? Donc ça, c'est l'avenir qui le dira. Il semblerait que, selon les déclarations du procureur de la République de Paris, le niveau des plaintes soit, je cite, revenu à la normale, hein, comme s'il y avait une normale du niveau des plaintes. Il n'y a pas de normale du niveau des plaintes puisque
les comportements qui sont anormaux.
Voilà. Et puis les femmes portent plainte dans des proportions infimes. Hein, donc c'est déjà un niveau qui n'était pas normal. Hein. Donc ce 30%, c'est même pas un rattrapage de la réalité des violences dont les femmes sont victimes. Hein, il faut en avoir conscience.
Ça veut dire qu'on est encore très en dessous de la réalité, selon vous, François Speak?
Oh, sûrement. Je crois qu'il y a quelque chose quand même qui a le niveau de tolérance a baissé beaucoup. Donc on est sûrement en dessous de la réalité. Et puis beaucoup de femmes qui n'auraient pas porté plainte parce qu'elles avaient l'impression que c'était la dure condition des femmes. Qu'elle subissait sans avoir l'idée d'aller protester et d'aller tirer la sonnette des plaintes judiciaires.
Ça se traduit de manière très concrète et donc les associations, dont la vôtre, la VFT, ont été totalement débordées par les sollicitations au point d'être mises en difficulté dans leur fonctionnement. Marine Baldec, vous pouvez nous raconter ça?
Alors nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tenu tant bien que mal, en fait, à répondre à l'association, donc à un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, à tel point qu'on avait l'impression d'être davantage dans une salle des marchés que dans une association de défense des droits des femmes. Donc on a tenu bon avec une équipe très restreinte, hein, puisqu'on était cinq, on est toujours cinq. Donc le 31 janvier dernier, on a pris acte du fait qu'on ne pouvait plus continuer un jour de plus dans ces conditions, puisqu'on pouvait plus faire un travail correct, et que par ailleurs, ça pouvait nous amener à prendre des décisions inopportunes, puisque quand on fait du conseil juridique, faut y voir clair, on peut pas le faire à la chaîne. On a décidé de fermer l'accueil téléphonique également pour rattraper le retard accumulé pendant depuis des mois sur le traitement de nos dossiers. Et donc du travail, on en a encore pour des mois en réalité à le résorber, ce retard. On n'a jamais autant travaillé à l'association depuis qu'on a fermé l'accueil téléphonique, pour être clair. Donc cet accueil pourra rouvrir si on trouve des solutions, soit pour que ces plaintes soient prises en charge par d'autres structures, on pourra rouvrir quand l'association aura des moyens supplémentaires pour pouvoir le faire.
Oui, donc là, on le dit bien, le standard de l'association, il est toujours fermé pour pouvoir traiter les nombreux dossiers qui sont arrivés depuis le mois d'octobre. Ça vous surprend, François Speak? Qu'est-ce qu'il faudrait pour aider ce genre d'association?
C'est sûr qu'il faudrait des moyens. Il y a quand même un problème sur le rôle que jouent les associations et qui font quand même largement du bénévolat pour un service public. Alors, l'État se décharge sur les associations, bon, qui demandent évidemment des subventions, hein, parce qu'en France, on fonctionne quand même comme ça. On va pas, on n'est pas comme aux États-Unis à avoir des fondations et des, enfin, si, un petit peu. Mais bon, c'est, donc l'État ne donne pas, ça c'est certain, l'État ne donne pas autant qu'il devrait donner pour que ce service public soit assuré.
Marine Baldeck, est-ce que à l'occasion de cet afflux de demandes, vous avez découvert des choses nouvelles? On disait au tout début qu'on s'était rendu compte que le milieu médical était particulièrement touché. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont révélés? Vous avez découvert des choses?
Non. Non, non, c'était pareil en plus. Pour résumer, non. Je crois aussi ce qui est intéressant, c'est de dire aussi que parallèlement à cet afflux, à ce cœur des femmes au sens grec du terme, qui s'est exprimé ces derniers mois, il y a eu aussi des rappels à l'ordre assez sévères. Sur le fait que, bon, mesdames, vous avez parlé, mais maintenant ça suffit aussi, hein, et un rappel à l'ordre qui est venu du plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que Édouard Philippe et le Premier ministre et le chef de l'État qui ont tout de suite affirmé qu'il fallait pas sombrer dans une ère de la suspicion, de la délation, etc., etc. La tribune des 100 prônant la liberté d'importuner, enfin, c'est-à-dire, ça ne s'est pas fait de manière indolore aussi, cette prise de parole des femmes, comme à chaque fois que les femmes prennent la parole. À un moment, dans un premier temps, on trouve que c'est bien, et puis au bout d'un moment, on trouve que c'est trop. C'est ce qu'on est en train de résumer par l'expression « me too, mais ». Voilà, il y a toujours un mais derrière, ce qui, je pense qu'il faut le dire aussi, n'a rien à voir avec un phénomène de victimisation des femmes. Ce que les femmes ont fait, moi j'ai été très fière d'être une femme, quand j'ai entendu toutes ces femmes prendre la parole pour dire les violences dont elles avaient été victimes, c'est une immense démonstration de force. Et effectivement, cette démonstration de force, elle est dangereuse pour certaines personnes.
Il y a toujours une réaction dans ces cas-là, vous, avec votre expérience, Françoise Pic, vous l'avez vécu de multiples fois.
Oui, alors dans le cas présent, on a eu le cas de Caroline de Haas, qui est une des militantes très très actives sur
Oser
ce front.
Le féminisme, c'est le nom de son organisation.
Enfin, c'est le c'est l'organisation qu'elle a fondée.
Oui, c'est ça.
Mais elle y est plus. Mais elle est active de façon très très importante, et on a quand même vu il y a quelque temps une émission de télévision où un échange entre deux personnages l'idée qu'ils avaient envie de gifler Caroline de Haas est passée comme quelque chose qui était
quelqu'un du milieu du cinéma d'ailleurs, voilà. Et le journaliste en boîte
à gants. Le journaliste est à la poche, alors que c'est absolument scandaleux.
Moi, ça m'a fait penser à parce que El Kabash, qui est quand même un très 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 vieux de l'histoire. Moi, j'ai connu les Taisez-vous El Kabash par Georges Marchais de ma jeunesse. Voilà.
Il devrait continuer à se taire.
Il ferait bien de voilà. Donc oui. Alors, le cas de Caroline de Haas est quand même emblématique du fait que il y a un côté clair, tout le monde dit c'est très bien, les femmes parlent, etc. Et puis les réseaux sociaux amplifient. Et puis en même temps, il y a le côté obscur qui sont que les réseaux sociaux, c'est assez monstrueux sur tout ce qui peut s'y dire de
l'anonymat,
violence et de
permet des choses très
épouvantables.
Vous avez besoin de moyens pour traiter les demandes. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que le mouvement Maintenant on agit qui a été lancé notamment pour la soirée des Césars qui vise à récolter des fonds, est-ce que ça va vous aider, Marine Baldeck?
Alors, incontestablement, hein, puisque une partie des fonds récoltés par cet appel à soutien va nous bénéficier. Ceci étant, les associations et la VFT ont besoin de ressources financières qui sont régulières pour pouvoir déployer des actions dans le temps, notamment quand on travaille sur le temps judiciaire, ce qui est notre cas à l'association. On peut pas laisser des victimes au milieu du guet quand on a ouvert leur dossier, et leur dossier, il va rester ouvert pendant plusieurs années.
Est-ce qu'il y a besoin d'un cadre juridique qui évoluerait? pour traiter ces questions ?
Alors, pour ce qui me concerne, donc, c'est-à-dire la lutte contre les violences sexuelles au travail, le cadre juridique a déjà beaucoup évolué, dans un sens plutôt satisfaisant. Alors, il y a des améliorations qui sont encore possibles, ça c'est certain, notamment en droit du travail, pour que ce soit plus, pour que les employeurs soient invités, sinon contraints, à respecter leurs obligations légales, notamment en termes de prévention du harcèlement sexuel au travail, puisque aujourd'hui, même en cas de condamnation par un conseil de prud'homme, les sanctions financières sont loin d'être dissuasives.
L'exécutif, c'était le sens des discours aujourd'hui, appelle la société à se saisir du problème. Est-ce que, justement, la société ne s'est pas saisie du problème ? Est-ce que, justement, ça serait pas plutôt maintenant au pouvoir public d'avancer, selon vous, Françoise Pic ?
Je pense que c'est pas faux en même temps, parce que la législation, enfin, les règles juridiques étant là, il faut que les personnes concernées s'en saisissent, et il faut qu'en face, quand on parlait là des employeurs, ça me paraît très important que les employeurs comprennent l'importance et leurs responsabilités, et ça dépend beaucoup du regard de l'ensemble de la société dessus.
Alors, historiquement, le combat féministe, c'est-à-dire pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un combat qui met du temps à se concrétiser dans la loi.
Oui, beaucoup de temps. Oui. Avec des étapes, avec des choses différentes selon les périodes, hein, et des conquêtes portant sur des choses différentes. À mon avis, c'est un combat qui ne s'arrêtera jamais.
Est-ce que ça va plus lentement en France que dans les pays anglo-saxons ?
Non.
D'un point de vue juridique,
D'un point de vue juridique, non, parce que c'est quand même l'essentiel des règles, elles sont posées par l'Europe, donc c'est les mêmes. Le mouvement social est assez différent en France que dans d'autres pays. On a dans les pays anglo-saxons davantage de structures qui sont en place, d'aide. Et en France, beaucoup moins. En France, le mouvement social est un peu plus activiste que organisationnel.
Marine Baldec, vous voulez rebondir ?
Non, je voulais simplement dire que c'était difficile de comparer les systèmes légaux français et anglo-saxons, dans la mesure où on n'a pas du tout la même culture juridique, les mêmes grands principes de droit. En France, l'action judiciaire est essentiellement tournée vers la condamnation, alors que dans les pays anglo-saxons, et là vraiment je résume à grands traits, l'action judiciaire est essentiellement tournée vers la réparation et la réparation financière des préjudices.
La loi contre les violences sexuelles et sexistes qui sera portée par Marlène Schiappa a été repoussée à la fin du mois. C'est une déception que ça tarde un petit peu, Marine Baldec ?
Ouais, écoutez, il y a des choses intéressantes, hein, dans dans ce projet de loi, notamment le volet qui concerne les mineurs. Après, pour le reste,
l'âge de la majorité sexuelle qui est fixé à 15 ans selon le projet.
Oui, enfin, voilà. Pour le dire autrement, ouais. L'interdiction pour des adultes d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, ce qui me semble la moindre des choses. Mais par ailleurs, non, je pense qu'on n'est pas à un mois près.
Hein. Le harcèlement de rue sorti du droit pénal, ça paraît être une bonne idée pour une sanction plus systématique, selon vous, ou est-ce qu'il faut
Là, je suis assez dubitatif.
François Spic, ouais.
Je suis assez dubitatif parce que ça va pas se voir. Enfin, si pour que ça se voit, il faudrait vraiment qu'il y ait la police partout, et ce que je pense pas être une excellente chose. Donc ça va pas. Je pense pas que ça revient un petit peu à une condamnation morale. C'est pas bien de faire ça. Ça existe. La loi existe pour le punir, mais quand déjà pour les cas de viol, c'est tellement compliqué d'apporter la preuve pour des cas de harcèlement dans les transports en commun ou des choses comme ça. Je pense pas que ça soit très efficace.
Merci Françoise Pic, merci à vous également Marlène Baldec d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Valentin Vaner, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles avec notamment l'application RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.